BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
L'invité, on le disait à l'instant, Pascal Lechevalier, fondateur de WhatsApp Media. Merci d'être avec nous dans l'heure H en studio de surcroît. Disney+, c'est la bouffée d'air de la compagnie, l'entité génératrice de revenus. On l'a vu dans quelques chiffres dans le journal, mais là, ça se confirme.
Alors ça se confirme parce que la pandémie est passée par là, donc il y a eu un double effet ciseau. D'un côté, les parcs qui ont été fermés, qui ont du mal à réouvrir, les tournages qui se sont arrêtés, les salles qui sont fermées, les DVD qui ne se vendent plus, et puis la SVOD, donc la vidéo à la demande par abonnement, qui a explosé du fait que les gens étaient chez eux et que Disney est entré dans un bon timing, en particulier en Europe, pour lancer son offre. Donc tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, la SVOD, c'est un peu l'or des studios.
C'est ça, c'est l'effet d'aubaine.
C'est un effet d'aubaine fabuleux et qui a permis en fait à Disney de compenser tout ce qui était perdu temporairement ou pas. Par ailleurs.
Oui, on le verra sur les perspectives de la suite. Hein. L'avenir nous le dira précisément si c'est totalement perdu ou si il y aura un véritable effet rattrapage. Pour revenir en détail sur ces quelques chiffres, 60,5 millions d'abonnés. Il y avait un objectif minimal d'abonnés qui a été atteint 4 ans plus tôt que prévu véritablement. On était déjà dans cette tendance de toute façon où on avait vu des chiffres au plus bas et donc on est facilement 4 ans plus tôt.
Alors, il y a plusieurs éléments, mais depuis le démarrage, compte tenu de son faible prix pour le consommateur final, Disney+ a été très très vite. Toutes les publications du premier et du deuxième trimestre montraient une croissance extrêmement rapide. Je rappelle aussi que Disney+ n'est pas présent dans tous les pays du monde, donc ils sont sur un environnement de pays largement plus faible, par exemple, que celui de Netflix. Mais ça leur a permis d'aller très très vite, parce qu'ils ne sont pas chers. Ils sont arrivés avec une offre qui était très attrayante.
Avec un vrai catalogue aussi, il y a le prix et il y a le catalogue aussi.
Alors, il y a le prix et le catalogue, mais il y a un petit bémol, c'est que Disney a du mal à fournir, en tous les cas, aussi bien que Netflix.
Et à se renouveler.
Sur les nouveautés. Donc on anticipait peut-être un effet de ressortie, de churn, de désabonnement plus rapide, puisqu'encore une fois, la vidéo à la demande par abonnement, c'est essentiellement un travail de fidélisation. On y revient, on garde l'abonnement parce qu'il est pas cher, mais parce qu'on a toujours quelque chose de nouveau à regarder.
Et puis on sait ce qu'on va pouvoir consommer.
Exactement. Là, Disney a profité de cet effet d'aubaine où tout le monde était cloîtré à la maison et avec un catalogue effectivement pour les enfants extrêmement large, avec le catalogue des Star Wars, etc., qui ont permis justement d'ancrer le public qui finalement a sans doute moins déserté la plateforme une fois les premiers programmes consommés et appréciés. Et les gens se sont dit on va rester parce que de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire. Et de toute façon il n'y a plus de cinéma d'ouvert. Donc si on ne peut pas sortir, ben on reste à la maison et on consomme du Disney.
Ça veut dire qu'il va falloir transformer l'essai désormais. Et Disney est déjà, la compagnie dans son ensemble est déjà dans cette optique avec des investissements encore, de lourds investissements attendus dans le secteur.
Oui, alors ce qu'il faut rappeler en particulier aux États-Unis, c'est que Disney travaille sur un triptyque. Quand on parle de 60 millions d'abonnés, ce n'est que pour Disney+.
Oui, parce que c'est 100 millions dans l'ensemble, si on rajoute ESPN notamment.
Voilà, donc ils ont une offre sportive ESPN+ qui a souffert, mais comme ils n'ont pas payé les droits sportifs et qu'ils ont pu faire des économies, finalement ESPN+ sur ce trimestre s'en sort pas mal. Et puis il y a Hulu, qui est une plateforme américaine, qui fait à la fois de la live TV, donc de la télé en direct avec des chaînes, du replay et de la vidéo à la demande par abonnement. Donc le mix de tout ça fait que Hulu a plus de 35 millions d'abonnés aux États-Unis et le total fait plus de 100 millions en fait sur très peu de territoire. Donc ces 100 millions d'abonnés aujourd'hui, c'est un véritable actif pour Disney et maintenant charge à eux de le faire fructifier. Mais vu la tendance, sauf si effectivement il y avait un très très gros accident, alors la période estivale est toujours un peu particulière pour tout ce qui est
on déserte un peu
loisirs
l'écran.
De divertissement vidéo, on préfère être dehors. Mais comme il y a également énormément de contraintes pour sortir aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, avec des zones qui se reconfinent ou qui ne sont pas complètement déconfinées, je pense que le socle américain des offres SVOD de Disney va résister. Et le véritable rendez-vous sera en 2021, quand tous ces phénomènes un peu perturbateurs seront peut-être ou pas passer, mais en tous les cas, on sera plus dans une espèce de normalité de concurrence, et peut-être que c'est là qu'on verra que Disney aura plus de mal à conquérir de nouveaux abonnés.
Donc il y a le potentiel de croissance, et il y a les investissements pour l'année prochaine, avec le lancement pour 2021 d'un nouveau service sous la marque Star. Là, c'est plutôt anecdotique, c'est déjà des contenus, mais c'est ce qui a été acquis chez Fox, et c'est un support supplémentaire sans que ça soit une révolution attendue.
Alors oui, en fait, Disney a acquis une plateforme qui s'appelle Hotstar en Inde, et ils ont annoncé hier qu'ils allaient sans doute travailler sur un modèle international pour Star. Alors certains observateurs se posent la question de dire est-ce que c'est Hulu qui va devenir Star à l'international, Hulu n'étant pas très connu en dehors des frontières des États-Unis et pour les petits malins qui ont un VPN. La question se pose. En tous les cas, il y a un catalogue qui est très très important et qu'il va falloir mettre en ligne, exploiter, d'autant plus que par ailleurs les recettes de la vidéo physique sont quand même très contraintes du fait de la fermeture des magasins sur cette période là, sur les 6 mois. Donc forcément ça incite Disney à numériser et à mettre en ligne une nouvelle plateforme, plutôt basée effectivement sur le catalogue qu'ils ont racheté à Fox.
La crise a véritablement transformé, boosté toutes les plateformes, l'ensemble des plateformes, hein, que ce soit Netflix, Amazon et les autres bien sûr, et ça a accéléré une tendance où on voulait aller plus vite pour le contenu, pour les films par exemple, pour le cinéma, plus vite sur les plateformes et délaisser le cinéma physique. Là, de toute façon, cinéma fermé, une accélération. Ça a bien sûr bénéficié aux plateformes. Et là, ça devient une vraie stratégie ou c'est juste pour une fois, c'est juste un cas unique que Disney choisisse Mulan, ou alors ça va être un test potentiellement pour qu'on transforme la chose?
Sans doute un peu des deux. Le PDG de Disney a dit hier soir, c'est un one-off, c'est-à-dire ce n'est pas fait pour se reproduire. On le fait une fois.
Ça a été repoussé, la sortie a été repoussée.
Compte tenu de la conjoncture, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, les perspectives, encore une fois, un film Disney sort sur des milliers d'écrans à l'international. Aujourd'hui, les perspectives de pouvoir faire une programmation et surtout, ce qu'on oublie, c'est tous les investissements marketing qui sont faits avant la sortie. Et aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir entre 2 et 3 mois de visibilité pour commencer à investir sur les réseaux sociaux, puis de l'affichage, puis de la publicité pour les pays qui autorisent la publicité à la télévision pour le cinéma. Tout ça, aujourd'hui, est gelé. Donc, le risque, c'est de dire on va sortir un film qui a coûté quelques très très grosses dizaines de millions, voire plus de 100 millions de dollars pour se fabriquer, et on fait un saut dans le vide, et aujourd'hui préfère sécuriser en faisant donc ce qu'ils appellent un one-off, donc c'est un test qui est complexe à comprendre puisqu'on est sur une plateforme de SVOD qu'on paye mensuellement et à laquelle va falloir rajouter $30 ou €30, on verra, dans les pays dans lesquels est aujourd'hui présent Disney+, et €30 pour voir un film, alors en totale exclusivité, c'est à la fois cher et pas cher. Pourquoi ? Parce que si on va au cinéma avec des enfants, par exemple, une famille normale, 2 enfants, 2 parents, même avec une carte, le parking, les kilomètres en voiture, les pop-corns, ça vous revient, allez, entre 50 et 100 euros ou $100. Là, vous pourrez être 5 ou 6 à la maison, faire vous-même les pop-corns et vous en aurez pour $30 ou €30. Donc, faut aussi.
Donc, c'est un pari finalement qui peut être gagnant pour les abonnés américains. C'est $30 supplémentaires, le pari peut être gagnant.
C'est un pari qui peut être gagnant, ça va leur permettre de mesurer l'attractivité de cette offre et puis.
Et ferrer potentiellement la stratégie à venir.
Exactement. Et comme vous le dites, peut-être que c'est une stratégie qui va s'inscrire dans les usages parce que le cinéma en tant que tel aujourd'hui est chahuté et que les productions sont dans certains cas terminées. Les films, les bobineaux sur étagère, et donc faut agir, faut diffuser, voilà.
Oui, faut rentabiliser, et finalement ça permet de flécher directement le film produit vers le diffuseur. Et aussi, est-ce que ce sera un moyen de rentabiliser aussi toutes les mesures sanitaires supplémentaires mises en place pour les tournages désormais? Ça va être un moyen justement de doser le coût du film?
Sans doute, mais là on est devant presque une page blanche parce qu'on a appris fin mai que les tournages recommençaient et tout le monde s'est voulu rassurant. C'est vrai que c'est des coûts supplémentaires, donc va falloir économiser par ailleurs. Et économiser par ailleurs aujourd'hui, c'est aussi mettre ces programmes à disposition de manière plus rapide auprès du public. Donc c'est pour ça que les plateformes de VOD à l'acte et de SVOD sont un écrin extrêmement intéressant. Maintenant, il faut que le public soit au rendez-vous. Mais encore une fois, si le public n'a pas le choix et que les films ne sortent pas en salle, puisque tel est bien le sujet, on a vu qu'en France, il y a déjà des phénomènes de certains studios qui commencent à
renoncer. Oui, ça y est, ça commence.
Gaumont,
qu'on voyait plutôt réfractaire, a commencé à franchir le pas. Rentabilité oblige à se dire, à s'allier du côté de Netflix, justement, pour que les films soient et aient une vie.
Faut pas oublier que le cinéma est un art, mais que les entreprises de production et de distribution sont aussi des entreprises qui ont des budgets à respecter. Et encore une fois, elles sont historiquement dans un cercle vertueux qui est, on investit dans un film, on le met sur le marché, on a des recettes, et avec ces recettes ou avec les bénéfices, ça permet de financer d'autres œuvres. Aujourd'hui, si le marché s'arrête, c'est l'hécatombe et c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça qu'ils recherchent tous des solutions. Puis je pense qu'à un moment donné, faut aussi passer de l'autre côté... De l'autre côté du mur et de dire que la SVOD c'est complémentaire du cinéma, c'est complémentaire de la télévision. En France, on aime bien opposer ces modes d'exploitation et de distribution, mais pour le consommateur, ce qui est important, c'est d'avoir accès aux œuvres et il est capable aussi de faire lui-même son choix entre se rendre dans une salle, regarder la télévision, regarder du replay ou s'abonner à une plateforme de SVOD.
On s'écartera peut-être de ces fameux débats récurrents sur la sélection des films pour Cannes, pour les Césars, etc. Avec cette avancée, un dernier point vis-à-vis de Disney+, le titre progressait largement avant bourse à Wall Street, hein, notamment les bonnes perspectives, c'est ça qui peut fonctionner, qui peut porter le titre du côté de la cotation, hein, du groupe côté streaming. Les investisseurs ont eu tendance initialement à sous-estimer la force de Disney+. Là, ils vont voir...
Alors la cotation, enfin le marché boursier est aussi
un peu décorrélé,
très fluctuant et très décorrélé. Aujourd'hui, il y a une guéguerre, par exemple entre la valorisation boursière entre Netflix et Disney sont à peu près au même niveau, à quelques dizaines de millions de dollars près, mais ça vaut entre 220 et 250
oui, on est dans
milliards
même
de dollars,
ordre.
Mais c'est dans le même ordre. Le vrai sujet pour Disney, c'est qu'aujourd'hui il recueille énormément d'abonnés. Par contre, on a quand même vu dans certaines études que sur la fréquence d'usage, donc sur des études utilisateurs américaines, que Disney aujourd'hui est quand même loin d'être au niveau de Netflix. Donc c'est à la fois un pari que d'arriver à remonter à ce niveau-là, en termes de fidélisation, d'usage de la plateforme. On l'a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas de contenu, c'est plus compliqué à tenir. Et puis il y a les perspectives globales du marché qui aujourd'hui sont en fait inespérées. D'ailleurs, à toutes les interviews avec les investisseurs, ils disent prudence, prudence, prudence. Parce que si on applique les mêmes chiffres sur 2021, il va y avoir plus d'abonnés à la SVOD dans le monde qu'il n'y aura d'habitants. Donc faut faire attention. Mais oui, ce sont des perspectives porteuses. Ça permet de renouveler le modèle. Finalement, pour ces entreprises-là, c'est peut-être aussi une façon de survivre à la crise.
Exactement. Transformation de modèle. Prudence, on verra cela bien évidemment sur les mois à venir pour l'ensemble du secteur. Merci Pascal Le Chevalier, vous êtes fondateur de What's Hot Media. Merci d'avoir été dans le rush. On se retrouve dans un instant avec le PDG fondateur d'UCAR, Jean-Claude Puerto.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
L'invité de l'heure H désormais, Jean-Claude Puerto, PDG fondateur d'UCAR. Merci d'être avec nous à distance, mais merci d'être dans l'heure H. Comment on doit vous présenter? On dit plus loueur de voiture, on dit acteur de la mobilité, spécialiste de la mobilité?
On est de plus en plus des acteurs de la mobilité et de moins en moins seulement des loueurs de voiture.
Oui, exactement. Il y a la location, l'achat de voiture, mais également l'autopartage. On va y revenir. Le printemps a été pour l'ensemble du secteur désastreux, bien évidemment. Confinement oblige, un parc totalement à l'arrêt. Depuis, est-ce qu'il y a eu un effet d'aubaine alors que les transports, certains transports ont été totalement délaissés? Il y a eu un report du côté du marché de la voiture à tel point que des loueurs peinent à répondre à la demande. On a vu l'exemple Corse. Comment ça s'est passé pour vous cette reprise?
Oui, c'est vrai, je crois qu'il ne fallait pas ajouter une catastrophe à une catastrophe. À un moment donné, on s'est retrouvé avec des voitures et pas de clients. Nous, on a décidé de garder nos voitures, de les mettre à la disposition du personnel soignant, de telle manière qu'on a pu répondre à la demande quand on a eu des clients. Et donc, aujourd'hui, on est en train de retrouver nos chiffres de 2019. Effet d'aubaine, c'est un peu fort. Je dirais qu'on est en train de remonter progressivement la pente.
Vous essayez de rattraper un niveau à peu près normal, finalement. De quel ordre, désormais, au niveau d'activité, vous êtes quoi, à moins 20%, à moins 30%, ou alors à un niveau à peu près à la normale, désormais ?
Écoutez, sur la dernière semaine, on était exactement au point de l'an dernier. Sur le mois de juillet, on n'est pas très très loin, on est à moins 5 de 2019. Et depuis le début de l'année, on est à moins 26.
Et ça veut dire que vous n'avez pas été pénalisé d'un point de vue logistique. Le parc a été tout de suite mobilisable et pas de problème, soit de pénurie, soit d'organisation à la fois pour les mesures sanitaires, etc. Alors, on va vous retrouver dans un instant.
Je vous débarrasse des voitures.
Pardon, on vous a mal entendu.
C'est ce qu'on n'a pas fait. On a conservé nos voitures et donc on les avait au moment où les clients sont revenus. Ça a été une aubaine. Vous savez, c'est terrible pour un loueur. J'ai une pensée émue pour nos camarades restaurateurs, mais c'est un peu comme si un restaurateur achetait tous les jours à manger de la viande, du poisson, faisait à manger tous les jours et n'avait pas de clients. Nous, les voitures, on les a, on doit les payer. Et donc la tentation de s'en débarrasser au plus vite est très très forte, parce que nous n'avons pas fait.
Mais je vous en prie, allez-y.
Non, ce qu'on n'a pas fait, on a préféré essayer de se rendre utile en les prêtant au personnel soignant, mais de telle manière que quand les clients sont revenus, on avait les voitures. Et on n'a pas non plus annulé nos commandes.
Mais bon, c'est sur l'utilisation par le personnel soignant, l'usage du personnel soignant, ça ne répond pas au même volume.
Non, ça ne répond pas au même volume. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a décidé de garder nos voitures. On n'a pas décidé de les rendre brutalement. On savait bien qu'à un moment donné, ça allait repartir. Et donc, on a préféré supporter cette charge-là. Parce qu'il y avait une deuxième catastrophe qu'on pouvait provoquer, c'est ne plus avoir de voiture alors que les clients sont là. Et donc, double peine. Hein. On n'avait pas de clients quand les voitures étaient là. Le pire, ça aurait été de ne pas avoir de voiture au moment où les clients. C'est un peu ce qui se passe en Corse dont vous parlez.
La charge désormais sur les coûts d'organisation, notamment sur les mesures sanitaires, est-ce que ça pèse désormais ? C'est aussi un moyen d'attirer la clientèle. Il faut les rassurer, ça passe par un message, mais également dans votre organisation. Ça veut dire que ce sont des véhicules qui tournent moins, qui sont immobilisés plus longtemps, ça a un coût pour l'entreprise.
C'est un coût pour l'entreprise, ce ne sont pas des véhicules qui tournent moins, ce sont des véhicules qui nécessitent un temps d'arrêt, mais ce n'est pas très important, un temps d'arrêt plus important entre deux clients, ça nécessite du travail sur le véhicule plus long pour respecter les mesures sanitaires, mais ça c'est le prix à payer pour être un moyen de transport choisi par les consommateurs qui ont peur. Ainsi, si on veut être une alternative au transport en commun, c'est le prix à payer, c'est normal.
Est-ce que votre implantation en ville, plutôt qu'auprès des aéroports, du moins un peu moins que certains de vos concurrents, est une aubaine désormais, un atout plus précisément, ça vous rend moins dépendant de l'activité des aéroports ?
Oui, incontestablement. Que voulez-vous faire quand vous êtes présent en aéroport et en gare s'il n'y a pas de train, s'il n'y a pas d'avion ? Donc, ce n'est pas notre cas. Nous, en centre-ville, on est reparti avec l'activité économique, on est reparti avec les vacances, donc nous sommes beaucoup moins pénalisés, c'est vrai.
Vous avez obtenu auprès d'un pool bancaire début juillet un prêt de 8,7 millions d'euros, un prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. C'est quoi ? C'est pour l'après ? C'est la trésorerie nécessaire pour redémarrer ou c'est pour anticiper les investissements à venir ?
Oui, c'est surtout pour ne pas arrêter nos projets, nos investissements. Je crois que là encore, le pire, ça serait d'arrêter l'entreprise, d'arrêter ses investissements. On est très, très engagé dans le développement du partage. On a mis en place la mise en pension dans nos agences voilà un an. On est en train de préparer une étape de peer-to-peer. Ça nécessite des investissements considérables. Et à aucun prix, on a voulu les arrêter.
C'était la continuité avec les années précédentes. Il y avait déjà eu de lourds investissements pour la digitalisation, pour l'offre d'autopartage. C'est des investissements qui avaient pesé sur la rentabilité en 2019. 2020, vous allez rester dans cette année de transition. Donc c'était le PGE, c'était tout faire justement pour pas couper ces investissements et se maintenir quand même.
Je crois que quand on a des équipes de qualité, il faut éviter de licencier. Il faut éviter de couper les investissements. Et je crois que effectivement, le PGE, c'est une garantie de pouvoir poursuivre sereinement le chemin.
Un nouvel acteur dans le secteur, Uber Rent, un service de location de voitures, c'est plutôt un intermédiaire. Il y a des agences, en fait c'est un relais, une marketplace. Est-ce qu'on peut envisager de vous voir sur ce type de support ou pas du tout? C'est alors une concurrence?
Non, c'est une concurrence technique, c'est une concurrence politique aussi. Nous croyons au digital dans la proximité. On ne croit pas une société d'esclaves dirigée par des applications construites je ne sais trop où, des algorithmes. Donc non, c'est plus qu'un concurrent, un ennemi.
Mais est-ce que ça veut dire que ça peut jouer aussi sur la concurrence du marché? Il y a déjà le fait de reprendre désormais cette activité sur fonds de vacances pour attirer la clientèle. Est-ce que se joue à l'heure actuelle une bataille des prix?
L'enjeu du prix va être très très important. Nous, on a toujours été très 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 orientés sur les prix bas. Mais vous imaginez que la crise sociale qui va survenir va priver certaines personnes de leur voiture, de leur possibilité de se déplacer. Donc nous sommes obsédés par l'idée de faire baisser les prix. Je crois que on est devant un enjeu de baisse des prix important, et je crois que le partage va permettre de baisser les prix, à condition bien sûr que ce soit un partage sécurisé. Ce qui est difficile dans le partage, c'est la sécurité.
Oui, c'est l'enjeu désormais, et c'est ce que propose également votre offre digitale. C'était l'occasion également. Cette crise a été un accélérateur pour vous de transformation, même si c'était déjà engagé. Est-ce que ça a été l'opportunité, et puis aussi une gestion des coûts par ailleurs? Ce sont des offres qui permettent de réduire peut-être certaines étapes intermédiaires, et là aussi de tirer votre atout, votre épingle du jeu dans cette bataille des prix.
Oui, on a des chiffres. Je crois que sur juillet, on était à plus 50 sur l'activité digitale. Vous avez tout à fait raison. C'est un facteur d'accélération, de réduction des coûts, effectivement. Mais pas. On a besoin de nos réseaux de proximité, pas au détriment de nos interventions de proximité. On a besoin de tiers de confiance. Je crois que le partage, c'est une formidable création de valeur. Les voitures que vous avez dans la rue, si on les utilisait, ça créerait de la valeur. Mais pour pouvoir les utiliser en toute sécurité, le rôle d'un tiers de confiance est essentiel.
Merci Jean-Claude Puerto, vous êtes PDG fondateur du CAR. Merci d'avoir été avec nous en direct dans l'Orage.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité, Audrey Maubert.
Avec nous en ligne dans l'Orage, Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Merci d'être avec nous à l'heure actuelle. Bonjour. Biotech française spécialisée dans les vaccins et engagée finalement dans cette course, eh bien, pour découvrir le vaccin du Covid. Vous faites partie justement de ces quelques-uns engagés dans cette bataille désormais. Dans cette
Absolument.
Course contre la montre.
Pardon ?
Dans cette course contre la montre, plus exactement.
Exactement, oui, où il faut tout faire à la fois. Le développement clinique, la montée en échelle industrielle, pour pouvoir délivrer les premières doses dès le milieu de l'année prochaine.
Déjà à horizon 2021, à votre niveau, on parle de biotech française nantaise, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça ?
C'est bien ça, mais avec des sites européens.
Oui, et donc développé sur les sites européens. Mais comment on se positionne en tant que biotech dans cette bataille face à des géants tels que Sanofi, tels que GSK et d'autres? La concurrence est rude et on ne joue pas à armes égales, si?
Alors oui et non, c'est-à-dire que en termes de développement clinique, de capacité à sortir des doses commerciales, nous sommes en fait dans la même course, hein, puisque Valneva depuis des années déjà produit et commercialise ses propres vaccins, des vaccins du voyageur. C'est la raison pour laquelle on avait tout le savoir-faire pour développer au niveau clinique et industriel notre propre vaccin Covid-19. La différence, c'est en termes d'échelle, effectivement. Sanofi se positionne pour pouvoir mettre à disposition du public autour d'un milliard de doses de vaccins Covid-19. Nous, on est plus... on a comme ambition d'aller au-delà des 200 millions de doses. Hein, mais voilà, c'est la différence, c'est plutôt en termes d'échelle.
Donc, un niveau d'échelle, on va y revenir en détail. Et j'imagine, en revanche, que l'impact serait beaucoup plus important, hein. Vous plomberez peut-être davantage si derrière, il n'y avait pas de succès de ce vaccin. Ça fait partie des possibilités.
Alors, en fait, non, puisque depuis le début, nous, comme d'ailleurs la plupart des industriels du vaccin, ont toujours indiqué que pour répondre à cette pandémie et pouvoir agir très très vite, il fallait qu'on soit couvert par des fonds publics. Donc nous avons déjà sécurisé avec le gouvernement anglais le fait qu'ils vont nous aider pour le scaling up industriel, pour des essais cliniques, et on va leur livrer jusqu'à 100 millions de doses.
Oui, c'est on ça, est c'est en dialogue. D'abord 60 millions et le cas échéant, 40 millions de doses supplémentaires, c'est ça, avec le gouvernement britannique ?
Absolument. Hein, et en contrepartie de quoi, ils vont et ils ont commencé, on l'a annoncé hier, déjà à nous financer pour la montée en échelle industrielle. Nous sommes en dialogue également avec la communauté européenne qui représente les 27 États membres et puis d'autres gouvernements pour également avoir des précommandes, un soutien aux essais cliniques. Donc, en termes de risque pour Valneva, en fait, c'est couvert par ces fonds publics, ça c'était essentiel. Par contre, si on réussit, et on pense bien réussir, ça peut être une formidable opportunité pour la société.
Et bien évidemment, un accélérateur, c'est certain, pour votre société. Donc, phase clinique à la fin de l'année, potentiellement commercialisation mi-2021. Finalement, on parle de la concurrence au départ, mais il est indispensable qu'il y ait plusieurs vaccins pour répondre à terme à la demande mondiale.
Exactement. À la fois en termes de volume, hein, puisque malheureusement on voit que le virus continue à circuler et que pour avoir un contrôle durable de la situation, il va probablement falloir vacciner des milliards d'individus, aussi bien dans les pays occidentaux que dans les pays en développement. Donc de toute façon, il est nécessaire que toute l'industrie du vaccin unisse ses efforts. Mais il est important aussi d'avoir différents types de vaccins pour couvrir probablement différents types de populations. Donc le fait qu'il y ait des stratégies vaccinales un petit peu différentes d'industriel à industriel est une bonne chose à la fin, aussi bien pour se donner plus de chances de succès, mais aussi pour couvrir différents types de populations. Donc c'est plutôt un effort très complémentaire qu'un effort concurrent, en fait.
Un accord avec le gouvernement britannique, potentiellement un accord avec l'Union européenne. La France a été aux abonnés absents, sans vouloir peut-être soutenir. On a beaucoup parlé en termes de vaccins, en termes de médicaments, de souveraineté nationale, de relocalisation, etc. Est-ce que les Britanniques ont simplement été plus rapides ?
C'est un peu ça. C'est vrai qu'ils ont eu une approche très très holistique depuis le début pour essayer de répondre à nos besoins en fait de soutien sur la partie industrielle, sur la partie clinique et sur les précommandes. Et ils ont eu une approche holistique depuis le début, ce qui fait qu'ils sont allés très vite. Alors néanmoins, en fait. à travers le processus lancé par la Commission européenne qui centralise les demandes de l'ensemble des 27 États membres, la France pourra également accéder à notre vaccin. Hein, donc voilà, indirectement, on va pouvoir livrer la France en dose de notre vaccin Valneva.
Dans la course contre le Covid-19 et donc pour cette recherche de vaccins, est-ce que dans votre cas, hein, pour cette biotech spécialisée dans les vaccins, ça n'a pas trusté toute la recherche? Finalement, vous développez d'autres projets, il y a d'autres investissements pour l'ensemble de la secteur de la biotech, mais également pour votre cas, est-ce que ça n'a pas aspiré toute la recherche et tous les investissements?
Alors c'est une très très bonne question et non, ça n'est pas le cas parce que hein, pour suivre notre actualité, vous savez que on va rentrer en phase 3 sur un vaccin contre la maladie de Lyme. Mm-hmm. On vient d'annoncer un accord avec la société américaine Pfizer qui va nous aider à co-développer la phase 3 et à commercialiser ce vaccin. En contrepartie, on a reçu 300 millions de prompt et de milestone et on va recevoir plus de 19% de royalties. Et donc le financement de cette phase 3 pour Lyme est sécurisé. On va également rentrer cette année en phase 3 pour développer un vaccin chikungunya. Et là aussi, on avait, avant la crise Covid, sécurisé le financement et les ressources. Donc, on va pas prendre de retard dessus. En fait, le Covid-19 est un nouveau programme que on avait de toute façon prévu de lancer. Bon, il se trouve que c'est le Covid-19. Il se trouve qu'il y a une urgence. Il se trouve aussi qu'on a les compétences pour le développer. Donc, la décision de démarrer ce programme n'a pas été difficile pour nous.
Ça veut dire que l'ensemble de ces projets en ligne de mire, notamment ce vaccin contre la maladie de Lyme, et justement, vous parliez de sécurisation de financement, ça a permis justement de préserver, de renforcer votre trésorerie au moment de cette crise et passer ces mois difficiles?
Alors effectivement donc le deal qu'on a fait avec Pfizer est un élément de sécurisation très important puisqu'ils nous ont payé un upfront de 130 millions d'euros. On a communiqué qu'à fin juin on avait donc 200 millions d'euros de trésorerie. Hein, par exemple, nous n'avons pas sollicité de prêt garanti par l'État de ce fait-là puisque en fait on a tout à fait le cash pour passer la crise. Mais l'enjeu pour nous, il va au-delà, hein, c'est-à-dire que on veut non seulement préserver ces 200 millions pour le Lyme et le développement du chikungunya, et puis solliciter et mobiliser les ressources financières suffisantes pour aller très vite pour développer un vaccin Covid-19. Et on a donc annoncé ce premier accord avec le gouvernement anglais, et puis d'autres accords vont suivre, ce qui fait qu'on va pouvoir financer ces trois programmes en parallèle sans souci.
Et finalement, malgré une perte nette au premier semestre, ça ne va pas entacher, par exemple, les investissements en R&D pour les mois à venir. Il y aura un second semestre avec de bonnes perspectives.
Ben absolument, on a même rehaussé nos guidances en termes d'EBITDA, hein, puisque en début d'année, on avait annoncé, du fait de l'augmentation de nos dépenses R&D sur le Lyme et Chik, un EBITDA négatif moins 10 à moins 35 millions, moins 30 millions d'euros. Et en fait, on a rehaussé notre guidance à 0 à moins 10 à la fin de l'année du fait de l'accord avec Pfizer. Hein. Donc on va même sortir l'année plus positif qu'anticipé.
Merci Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Merci d'avoir été en direct aujourd'hui dans l'orage.